Nous étions dans la première épître de Paul à Timothée et nous pouvons reprendre la lecture au début du chapitre 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Bon, nous arrêtons là, nous reprendrons tout à l'heure concernant les diacres. Ici, nous sommes plus particulièrement dans les évêques et les anciens. Et nous avions déjà commencé à voir que Dieu désire que le serviteur de Dieu soit irréprochable comme économe de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est vu simplement comme accomplissant des tâches administratives ou matériel dans l'Église, mais il est économe sur le plan spirituel. C'est là le sens, le Seigneur Jésus a comparé ses serviteurs à des économes. Économe, donc, c'est un terme, un mot que nous sommes allés trouver dans Tite et qui indique le rôle tout à fait spirituel, même des anciens, des évêques ou de tous ceux qui exercent ministère. Nous avons vu qu'il fallait qu'il soit sobre, qu'il soit prudent, réglé dans sa conduite, c'est-à-dire ne prenant pas de positions qui se contredisent et qui apportent l'injustice. Dans un cas, telle solution, dans un autre cas semblable, une autre solution, en tenant compte, par exemple, des personnes, tout cela est à exclure. Il faut qu'il soit aussi hospitalier. Je ne m'arrête pas beaucoup là-dessus. Il y a différents passages des Écritures, comme par exemple Romains 12, 13, 1 Pierre 4, 9, Hébreux 13, 2, Matthieu 25, 35, qui nous montrent le bien qui s'attache à l'exercice de l'hospitalité au milieu de l'Église ou entre membres d'Églises différentes, car c'est à travers l'hospitalité que beaucoup de bénédictions peuvent être obtenues. Alors il y a peut-être là même un principe qui est mis en application ici dans le Homme, n'est-ce pas? À travers l'hospitalité, mais l'hospitalité doit toujours, elle, servir un but plus élevé, le but spirituel, le but qui est de sauver les âmes, d'amener les âmes au salut. L'hospitalité n'est pas une charité au niveau de la terre. C'est une charité bien plus élevée que cela. Il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Voyons 1 Timothée 4 et 1 Timothée 5, pardon, et verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors ici, dans ce verset 17, Nous voyons que les anciens pouvaient accomplir trois types de fonctions différentes. Ils pouvaient diriger les anciens qui dirigent bien. Ils pouvaient diriger ce qui, dans l'Écriture, se traduit aussi par un autre terme, un autre verbe, présider. Présider au milieu de l'Église. Non seulement présider des réunions, mais présider veut dire exercer une certaine autorité qui tend au bon ordre dans l'Église. Donc, c'est un peu l'idée de diriger. Donc, présider dans les réunions ou diriger ou même aussi gouverner l'Assemblée. Participer au gouvernement de l'Assemblée. La seconde fonction, c'est celle qui s'attache au mot « travailler à la prédication ». Ceux qui travaillent à la prédication, ce sont ceux qui peuvent édifier l'Église par la parole, par un don d'exhortation, voire même un don de prophétie, car les prophètes, alors là, je quitte la généralité des anciens pour arriver à un ministère plus nettement apostolique. Il y a le don de prophétie, puis il y a aussi des prophètes, des ministères de prophètes. Il devrait y en avoir dans l'Église, il y en a, mais on ne les distingue généralement pas. Et on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est un excellent ministère. Vous savez qu'il y a premièrement dans l'Église des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ça ne veut pas dire que cela constitue une hiérarchie. Bien sûr, le ministère d'apôtre semble bien tout de même être au fait de l'édifice, puisque c'est un ministère, si vous voulez, aujourd'hui, qui se traduit par l'œuvre du missionnaire. Le missionnaire qui va dans un champ encore inculte et qui établit des églises. Il fait œuvre d'évangéliste, il établit des églises. Et puis, il les installe, les affermit dans leur commencement. Ça, c'est l'œuvre de l'apôtre. Mais il y a le prophète, le ministère de prophète, dans le Nouveau Testament, qui n'est pas analogue, bien sûr, au ministère de prophète. Il ne peut pas l'être dans une dispensation différente. Il ne peut pas être exactement ce qu'était le ministère de prophète dans l'Ancien Testament. Mais le prophète du Nouveau Testament, c'est un homme qui exhorte les églises. Qui exhorte les églises, en général, c'est un ministère qui n'est pas lié à une église particulière. Il s'exerce sur un ensemble d'églises dans une région, mettons. Et ce ministère consiste essentiellement à exhorter d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire exhorter avec une révélation des besoins exacts et actuels de l'Église. Le ministère de prophète est renseigné par Dieu de ce qui est le point faible ou de ce que sont les points faibles de l'Église, de ce que sont les problèmes de l'Église, de ce que sont les besoins des cœurs ou des vies dans l'Église, chose qui arrête la croissance ou qui sont en train de nuire à l'Église. Alors le prophète vient et il exhorte, certes il se sert de l'Écriture, mais il exhorte objectivement au-devant de ses besoins que personne ne lui a signalés. Il est guidé par l'Esprit. Voilà le ministère de prophète, c'est le ministère de Silas. Dans l'Église primitive. Et alors, bien entendu, je ne dis pas que les anciens étaient tous des prophètes du Nouveau Testament, comme je viens de le dire, mais à un degré peut-être moins élevé, ils sont dans leur Église, parce que les anciens, véritablement ce qu'on appelle maintenant les anciens, eux sont attachés à une Église. Ils sont anciens d'une certaine Église. Ils ne sont pas anciens des autres églises, ils sont anciens d'une certaine église. Et alors, ils travaillent à l'édification courante, ils peuvent travailler, certains peuvent travailler à cela, pas tous. Et puis alors, troisième fonction, c'est l'enseignement. Vous voyez, que les anciens qui dirigent ou président soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux... Alors, donc, parmi ceux qui dirigent, qui conduisent l'Église, il y en a qui vont travailler à la prédication et d'autres à l'enseignement. Travailler à la prédication, dans les termes grecs, ce sont deux choses différentes. Alors, donc, la prédication, ce sera surtout l'exhortation et instruire, l'enseignement, ce sera instruire. Et instruire essentiellement les nouveaux venus dans l'Église. Il faut qu'il y ait un enseignement de base qui soit apporté dans l'Église. Évidemment, les chrétiens affermis n'ont pas besoin, peuvent l'entendre peut-être, mais enfin, c'est pas pour eux particulièrement, mais les nouveaux venus doivent être instruits. Ça, c'est quelque chose d'excessivement important. Lorsqu'on a baptisé des gens, il faut les instruire dans la vraie doctrine. C'est indispensable et par conséquent, il faut faire en somme peut-être un cours élémentaire, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, un cours élémentaire pour les amener au niveau de connaissance des autres. Et puis alors après, il y a un enseignement pour toute l'Église. Mais cela peut dépasser le ministère d'anciens et cela revient particulièrement au ministère de pasteur ou de docteur. Voilà pour ce que dit ici Timothée dans notre chapitre 3, qu'il soit propre à l'enseignement. J'ai voulu à ce sujet-là vous montrer qu'il y avait enseignement, mais que tous ne participaient à l'enseignement, bien entendu. Vous savez que Jacques dit dans son chapitre 3 qu'il y en ait peu qui instruisent, parce que nous serons jugés plus sévèrement. C'est très délicat de manier l'enseignement, très délicat. On peut, si l'on n'est pas vraiment... choisi par Dieu pour cela, on peut faire du mal, du tort à l'Église, n'est-ce pas ? Dire ou enseigner une doctrine mal fondée, mal établie, c'est très délicat. Il faut prendre de grandes précautions pour enseigner. Qu'il y en ait peu qui enseignent. Et il y a une recommandation concernant la propre maison de l'évêque. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église ? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants. Vous voyez, il y a des précisions dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Bien gouverner l'Église est certainement plus délicat, plus difficile que de diriger sa propre maison. Mais diriger sa propre maison, c'est un minimum indispensable. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 10, nous avons ce verset bien connu, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grands. Injuste, voyez, pas nécessairement celui qui commet de l'injustice par carence ou parce qu'il a l'esprit mal disposé, mais injuste dans les Écritures, ça veut dire celui qui n'agit pas selon la volonté de Dieu, selon le conseil de Dieu. Enfin, c'est assez différent. Donc, que celui qui n'agit pas selon le conseil de Dieu dans les moindres choses ne pourra pas agir selon ce même conseil dans les grandes choses. Voilà le principe qui est appliqué ici par l'apôtre Paul concernant l'évêque qui doit savoir bien diriger sa propre maison. Maintenant, là, c'est une recommandation qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique concernant des anciens dans l'Église. Bon, il y aura le pasteur qui sera là et qui pourra bien sûr intervenir s'il voit que un ancien, par exemple, dirige mal sa propre maison, ou au moment du choix des anciens, il pourra s'opposer, ou avec d'autres, s'opposer à ce que cet homme soit désigné comme ancien. Mais quand il s'agit du pasteur, c'est pas si facile que ça. Enfin, il y a là une grande difficulté, parce que nous n'avons pas d'organe placé au fait de l'Église, comme en Amérique, par exemple, où ils ont des intendants et même un superintendant. Nous ne l'avons pas ça en France. Mais enfin, en faisant appel à la grâce du Seigneur, tout doit pouvoir rentrer dans l'ordre. Le zèle et la fidélité dans le gouvernement de l'Église peuvent provenir soit d'un désir de plaire aux hommes, ou soit du désir d'éviter humainement des difficultés. Et vous, en arrangeant les choses, alors ça, c'est un zèle qui est mauvais. Ou ça peut venir aussi, on a vu cela, du désir de se ménager un bon renom au milieu de tous. Des gens qui prennent soin d'eux-mêmes, de leur propre renom, alors que la bonne renommée doit venir d'une bonne conscience, d'une bonne conduite dans l'Église. Mais il y a des gens qui prennent soin eux-mêmes de leur bon renom et qui ont toujours ce souci et agissent de cette manière-là. Alors ceux-là sont indésirables. Comme administrateur de l'Église, il faut absolument que tout évêque, tout ministre établi sur l'Église, dans un ministère ou l'autre, et surtout dans le ministère de pasteur, dans celui d'ancien, s'il y a des anciens, il faut que tout ministre soit mû par l'amour de Dieu et par l'amour des brebis, et qu'il fasse tout, par conséquent, par le moyen de la prière, en se laissant inspirer par le sentiment de ce qui est juste, de ce qui plaît au Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas, que gouverner l'Église ou agir au milieu de l'Église, quand on dit gouverner, c'est peut-être un grand mot, mais intervenir au milieu de l'Église, c'est une chose délicate, délicate. On peut faire du dégât si on ne n'est pas vraiment mu par l'amour de Dieu. Qu'il ne soit pas un nouveau converti, c'est-à-dire littéralement un néophyte, ou on peut dire aussi littéralement un nouveau planté. Un nouveau planté dans l'Église. Il faut que l'épreuve ait produit la patience et permis à l'évêque d'obtenir de l'expérience. J'ai noté une référence ici, Romains 5, verset 4. Alors, il faut lire au verset 3, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, pas de nouveaux convertis. Calvin, à ce propos, dans un de ses ouvrages, dit qu'il faut que le nouveau converti soit redescendu de la hauteur de vol qu'il a pu prendre d'une manière téméraire. Il veut dire ceci, un nouveau converti qui est dans ce premier amour, l'amour de la conversion, un amour magnifique, qui est prêt à tout, vraiment, il se donne, mais il est sans expérience. Au début, c'est parfait, c'est bien, ses paroles ont même une certaine puissance, une certaine force, on y sent l'amour de Dieu, et elles font du bien. Son témoignage peut même produire immédiatement du fruit, mais très vite, ce nouveau planté, ce nouveau converti, va vouloir faire, agir quelque chose, sans expérience, avec une vision qui manque précisément de cette sagesse qui ne s'acquiert et de ce discernement qui n'est le propre que de l'homme fait. L'homme fait dont parle Hébreux 5. Et alors, ce nouveau converti va s'envoler, prendre son vol, disait Calvin. Alors, il faut attendre qu'il soit redescendu un peu sur la terre avant de l'utiliser vraiment à quelque chose. En principe, je pense que un nouveau converti ne peut pas être vraiment utilisé dans l'Église et avoir, disons, des responsabilités en propre. Il peut aider, mais avoir des responsabilités en propre, je ne pense pas qu'il puisse en avoir avant la cinquième année. La cinquième année. En tout cas, il faut au moins 3 ans. Et cela, on le fonde sur un passage du Lévitique au chapitre 19, verset 23. Chapitre 19, verset 23. « Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers. » Et je vous disais que littéralement, le nouveau planté, le néophyte, c'est le nouveau converti, c'est un nouveau planté. Hein, planté. Quand vous serez entrés dans le pays que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel, au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, il s'agit là, n'est-ce pas, d'une analogie qui est faite avec les nouveaux plantés dans l'Église. Et je, pour ma part, j'ai depuis longtemps adopté ce principe d'un minimum de 3 ans. Et la quatrième année même, il faut que le néophyte soit surtout utilisé dans la piété, dans la louange à l'Éternel. Les fruits sont pour l'Éternel. Et puis alors, la cinquième année, on pourra l'installer si jamais il est bien sûr appelé, s'il est choisi, s'il est établi, si Dieu l'établit dans un ministère, on pourra vraiment alors lui ouvrir la porte d'un ministère. Nous arrivons au diacre, au verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les femmes, il faut entendre ici, diaconesses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les diacres, qui, vous le savez, ont été institués pour la première fois dans Actes 6, au moment où il y avait certaines difficultés dans la distribution des vivres. Actes 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Vous voyez que ces gens-là sont vraiment installés dans une fonction. Et le diacre, selon les termes, il n'y a pas de raison de ne pas considérer que les diacres, il y en a maintenant dans les églises, que les diacres n'exercent pas un ministère. C'est un ministère qu'ils exercent. D'ailleurs, ministère veut dire tout simplement service. Ce sont les prérogatives qui distinguent les ministères entre eux, mais tous les ministères sont des services. Ils sont donc appelés plus particulièrement à des fonctions matérielles, mais ils ne peuvent remplir ces fonctions qu'avec une position spirituelle qui est tout à fait comparable à celle des évêques ou des anciens, dont ils étaient d'ailleurs les compagnons d'œuvre. Ils étaient aussi dans l'Église primitive de laquelle nous parviennent ces enseignements de l'Écriture sainte. Ils étaient aussi les auxiliaires des anciens dans la conduite des âmes et dans tout ce qui était en rapport avec l'édification de l'Église. Autrement dit, un ancien se faisait souvent assister d'un diacre. Le diacre était avec lui, à ses côtés. Personne ne peut être exclusivement attaché dans l'Église de Jésus-Christ à un service matériel ou à des travaux manuels. Je dis exclusivement attaché à des travaux manuels ou à une tâche matérielle. Personne dans l'Église. Il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose sur le plan spirituel. Tout auxiliaire de l'Église doit être spirituel et indemne de tout reproche. Celui qui assure des charges, alors purement spirituelles, comme l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, celui-là ne peut, bien sûr, nous le comprenons aisément, qu'avoir un comportement édifiant, et cela dans les plus petites choses, comme nous l'avons vu dans Luc. les charges matérielles sont elles aussi alliées au même comportement spirituel. Il est impossible, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui soit chargé d'une fonction purement matérielle, de travaux, n'est-ce pas, par exemple, n'est-ce pas, et puis qu'on puisse considérer comme dégagé de toute obligation du côté spirituel, dans sa vie, dans la signification spirituelle de son être, de sa vie, de son comportement. Enfin, c'est impossible dans l'Église. Impossible. Par conséquent, on comprend très bien ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Toute charge met celui qui l'exerce en relation nécessairement avec les autres. Dans l'Église, c'est ainsi. Il n'y a pas des gens qui sont des ouvriers et puis que personne ne regarde, ne considère, on ne leur parle pas, ils ne parlent pas aux autres. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Ils sont nécessairement en relation avec les autres et ils sont à la vue des autres et ils font partie du corps de l'Église. Il faut à ces relations, par conséquent, les relations de toute personne qui exerce une charge avec les autres frères, il faut l'authentique réalité du témoignage chrétien. Les diacres peuvent d'ailleurs avoir accès à l'intérieur des familles, ou à l'intérieur des familles, ou alors ils apporteront, devront apporter la bonne odeur de Christ autant que les anciens. Si par exemple un diacre va, je suppose, aider une personne en difficulté dans la famille, ils sont pour cela les diacres et les diaconesses aussi, hein, aider quelqu'un, les diaconesses vont quelquefois par exemple aider une sœur ou un ménage en difficulté dans les familles. Eh bien, il faut que ce diacre, cette diaconesse, apporte la bonne odeur de Christ tout autant que l'ancien, que le pasteur, lorsqu'il ferait une visite. Hein, on ne concevrait pas qu'un pasteur faisant une visite dans une famille n'apporte pas cette chaleur de l'amour divin et puis en même temps, n'est-ce pas, ce réconfort spirituel par sa personne, par ses paroles. Eh bien, le diacre ou la diaconesse doivent pouvoir faire de même, apporter la bonne odeur de Christ, hein, relever la joie et le courage qui ont pu faiblir de ceux qui sont éprouvés, par exemple, et eux aussi, diacres ou diaconesses, travailler à construire l'Église. Tout ça, c'est l'édification de l'Église. Je bâtirai mon Église. Tout le monde bâtit ensemble. Vous voyez bien nos frères ici, là, dans le home, n'est-ce pas, ben, ils sont tous à construire quelque chose, à bâtir quelque chose, eh bien, c'est l'image, c'est la figure, tous ensemble on construit. Par conséquent, on comprend très bien que les exigences concernant les diacres n'ont pas à être moindres que celles qui intéressent les anciens ou les évêques. Il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, des paliers, oh, le pasteur, lui, il faut que ce soit un homme spirituel et absolument irréprochable au-dessus de tous. L'ancien peut-être un peu moins et le diacre encore un peu moins. Ça, c'est une mauvaise conception. Mauvaise conception. Très mauvaise. Au verset 9, nous avons vu « Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure ». La foi dans sa nature, comme dans son objet, comme aussi dans la puissance qu'elle met en œuvre, est un mystère. La foi est un mystère, est un mystère. Il y a là, dans le cœur de l'homme, un sens spirituel qui qui jaillit, qui s'élance, c'est une force qui sort du cœur de l'homme, la seule chose que Dieu ait mise dans l'homme et maintenue dans l'homme devenu pécheur, devenu révolté contre lui, la seule chose qu'il ait maintenue en vue de son salut, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce qui veut dire, c'est dans l'Ecclésiaste cela, ce qui veut dire, n'est-ce pas, une aspiration toujours. C'est un sens. Et le Seigneur Jésus parle de ce sens qui est dans le cœur, comme des yeux, des oreilles. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et ils ne voient ni n'entendent, ils ne veulent pas voir et entendre. N'est-ce pas ? Alors je me refuse, moi, à les guérir. Eh bien, donc la foi est un mystère. Elle est l'action de l'homme dans le domaine invisible, dans le surnaturel, surtout si cette foi est celle d'un homme chargé de ministère ou d'une femme diaconesse, n'est-ce pas ? L'action de l'homme, donc, la foi est une action de l'homme dans le domaine invisible. Et la constante manifestation de la foi échappe au raisonnement, est donc un mystère, c'est un mystère, échappe à un examen, à une analyse humaine. On aurait beau amener tous les psychologues de la terre devant un homme de foi, il ne découvrirait absolument rien. Encore moins les psychanalystes. C'est quelque chose qui échappe, par conséquent, aux investigations de l'esprit humain. Il y a un mystère, c'est vrai, la foi est un mystère. Et il y a interaction entre la foi et la conscience, conservant le mystère de la foi, cette foi dans son mystère, dans une conscience pure, et on pourrait dire par le moyen même d'une conscience pure. Il y a interaction entre la foi et la conscience pure. La foi militera pour que la conscience se conserve pure. Et la conscience se conservant pure aidera, permettra, donnera aisance à la foi, permettra à la foi de rester ce qu'elle doit être, de garder sa fraîcheur, son ardeur, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il y a interaction entre la foi et la conscience pure. Ceci se retrouve encore dans d'autres passages, mais enfin je ne veux pas m'arrêter. C'est une chose intéressante à considérer de plus près. L'amour, lui, procède d'une foi sincère, c'est la foi qui attire l'amour de Dieu dans le cœur, une foi bien sûr qui est attachée à la vérité, mais la vraie foi produit donc l'amour et la bonne conscience, et s'il y a bonne conscience, il y a un cœur pur, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ce verset vaut son pesant d'or. Alors, il faut l'entourer, le souligner, ce verset-là, n'est-ce pas ? Il faut y penser souvent. En le fond, il résume un peu tout ce qui est nécessaire à l'homme chargé d'une tâche dans l'Église. Et au verset 13, « Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Je vois déjà l'assurance dans la foi en Jésus-Christ, assurance ou liberté, on peut traduire une liberté dans la foi. C'est-à-dire que celui ou ceux qui remplissent convenablement leur ministère sont à l'aise, d'abord dans la vie chrétienne, dans leur vie chrétienne. Ils ont le cœur libre, ils ont la conscience libre, ils sont comme Paul qui disait à certains moments que même en consultant sa conscience, il ne se voyait pas coupable de quelque chose, n'est-ce pas ? Et alors, ils ont la conscience libre et ils ont aussi, bien sûr, l'assurance de leur salut. Mais on peut admettre que ce verset va un peu plus loin et que cette grande assurance ou cette grande liberté dans la foi en Jésus-Christ signifie aussi que ceux qui exercent bien leur ministère s'acquièrent des possibilités de manifester la foi encore mieux et encore plus, et cela dans des circonstances plus difficiles. Et ils ont bien exercé leur ministère, eh bien, leur foi devient, en somme, capable de bien plus. Capable de plus. Leur foi augmente en potentiel, en possibilité. Et puis alors, un rang honorable, ils s'acquièrent un rang honorable. La confiance de l'Église leur est acquise, mais on peut aussi la comprendre par rang honorable, que des responsabilités d'un autre rang, d'un rang plus, disons, plus élevé, peuvent leur être attribuées. Les anciens ou évêques pouvant être fort bien choisis parmi les diacres, lorsque ceux-ci ont montré leur fidélité et la sagesse, une grande sagesse, ayant ainsi acquis une précieuse expérience, alors on peut leur confier des responsabilités qui vont davantage vers les préoccupations spirituelles sur l'Église. On va leur donner des charges d'anciens, ils vont peut-être aller visiter, par exemple, des personnes chez eux, faire des visites, etc. Au chapitre 4, et je vais tout de suite au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. En exposant ces choses aux frères. Mais quelles choses? Eh bien, tout ce que l'apôtre dit dans le commencement de cette lettre, c'est-à-dire le danger des fausses doctrines. Il faudra que tu exposes le danger que font courir à l'Église les fausses doctrines. Il faudra que tu exposes aussi, au chapitre 2, la persévérance dans la prière. Et quelle prière? Eh bien, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés, ça ne veut pas dire qu'ils le seront, étant donné que l'incrédulité subsistera, hélas, chez beaucoup d'hommes. Mais le vœu de Dieu, n'est-ce pas, c'est que tous les hommes soient sauvés. Par conséquent, il faut agir dans le sens qu'indique ici le chapitre 2. Alors il faudra que Timothée enseigne ces choses, donc il faudra que quelqu'un qui est chargé de ministère, à quelque titre que ce soit, même si c'est une diaconesse dans ses contacts avec des sœurs, diaconesse qui se rend, par exemple, dans l'intérieur des familles, il faudra que elle aussi, elle exhorte pour que la prière ne se ralentisse pas, mais qu'au contraire, on la pratique de mieux en mieux, de plus en plus. Elle aidera même à permettre aux gens qu'elle visite, à leur permettre de mieux prier, leur apprendre à prier. Et puis, il y a les devoirs des femmes aussi. Il faudra que Timothée, donc, il faudra que tout évêque ou tout ancien ou même tout diacre puisse exposer ces choses aux frères, c'est-à-dire aussi enseigner aux femmes ce qu'elles ont à faire pour honorer la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, d'or, etc., n'est-ce pas ? Bon, tout cela ne peut être commenté, mais il faut, bien sûr, l'enseigner avec douceur, sans prendre le ton et la manière du légalisme, mais il faudra tout de même enseigner ces choses. Il faudra qu'elle soit enseignée dans l'Église. Et vous voyez qu'il n'est pas possible d'accepter un relâchement sur des points comme ceci. C'est absolument impossible. Ou alors, pas, on est défaillant, ou alors on commence à perdre pied, abandonner la parole de Dieu sur certains points, à s'éloigner d'elle. Il faudra donc que toutes ces choses soient enseignées. Puis aussi, l'intrusion des esprits séducteurs. Au chapitre 4, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, il faudra exposer ces choses aux frères pour être un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Vous voyez que, avec l'enseignement de la doctrine, et pour maintenir cette doctrine, il y aura lieu d'user de certains avertissements, de certaines mises en garde. Il faudra prévenir, que l'Église soit prévenue de ces choses. Sans exagération, sans alarmer personne, mais il faudra que ces choses soient clairement dites. C'est une chose, voyez-vous, qui mérite d'être reconsidérée aujourd'hui dans l'Église. Il n'est pas bon de faire mystère sur les choses qui sont scabreuses, défaillantes, sur l'œuvre de certains hommes. Il ne faut pas faire mystère. Dès que l'on est certain que certains hommes s'engagent dans un travail qui peut être qualifié comme celui du faux docteur ou du faux prophète, alors là, il faut en avertir l'Église. Et puis au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. La première épître de Tite, l'épître de Tite, pas la première, il n'y en a qu'une, au chapitre 1er, je veux dire, et au verset 14, porte ceci. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il y a toujours et il y aura toujours dans l'Église, n'est pas seulement dans l'Église primitive que cela existait, mais dans toute Église, et on le voit par les lettres de l'Apocalypse, les lettres dues au Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'il y aura toujours de ces fables, plus ou moins judaïques. D'ailleurs, n'oublions pas que le catholicisme, lui, a énormément puisé dans le judaïsme. D'ailleurs, le catholicisme est né des hérésies dénoncées déjà dans l'Écriture, qui se manifestaient donc dans la première moitié du premier siècle, et le catholicisme est sorti de ces hérésies qui ont continué, et le système romain a été formé avec cela. Et ce n'est pas étonnant que le système romain soit allé chercher bien des choses dans le judaïsme, notamment les vêtements sacerdotaux, n'est-ce pas, et puis toutes sortes d'autres choses. Il y avait, en somme, des contes profanes et absurdes qui étaient apportés par principalement des Juifs. D'ailleurs, le Talmud, qui est un livre prétendant être le commentaire de la Torah, de la loi, Le Talmud en est rempli de ces contes-là. Il est rempli d'interprétations subtiles, interprétations allégoriques de certains événements de l'Ancien Testament. Il est rempli de contes, même des contes, des fables, en effet, inventés pour expliquer certains mystères. Il est rempli de toutes ces choses, de traditions fabuleuses. Plus tard, on parlera même de la science talmudique. Vous voyez, ça a donné naissance à une science, ce qu'on appelle une gnose. On appelait ça une gnose. Et puis, il y a de vaines spéculations sur, par exemple, les divers ordres des anges. On voit, n'est-ce pas, dans l'Écriture, dans les Éphésiens, par exemple, qu'il y a une hiérarchie dans les anges. Enfin, nous sommes très peu renseignés là-dessus. Eh bien, chez les Juifs, on avait inventé toutes sortes de choses. Il y a dans le Talmud aussi une chose bizarre, c'est que cette tendance à personnifier même des idées, des choses, des idées sont personnifiées. Et tout cela, bien entendu, porte tort si ça rentre dans le christianisme, ça porte tort à la révélation de Dieu, cela peut dérouter bien des cœurs, bien des esprits, des âmes faibles, par exemple, n'est-ce pas, même des plus fortes, et engendrer, en tout cas, entre les chrétiens, des disputes. Si les chrétiens se laissent gagner par toutes sortes de choses comme ça, alors entre eux, ils vont se disputer. Les débats théologiques vont être entrepris. D'ailleurs, dans le cours de l'Église primitive, il y a eu de ces débats théologiques célèbres. Par exemple, il y a eu un grand débat sur le sexe des anges. Ça a duré 2 siècles et demi, hein, pour arriver à une conclusion qui n'en était pas une, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, n'est-ce pas, c'est ce genre de contes et de fables. Mais il y a quelque chose ici qui est important pour nous. L'apôtre nous dit, et le Saint-Esprit nous dit, repousse les contes profanes et absurdes. Ne les laisse surtout pas s'implanter. Dès que tu t'aperçois que ces contes pénètrent un peu dans l'Église, immédiatement il faut intervenir pour les repousser. C'est extrêmement dangereux. Et dans ces contes profanes, bien sûr, ou ces interprétations extraordinaires, interprétations subtiles et interprétations allégoriques, il faut alors prendre garde de ne pas introduire ce genre d'interprétation dans la prédication, ou dans l'enseignement dans l'Église. Mes chers amis, j'ai assisté à ça, je puis vous en parler sciemment. Sous prétexte de typologie, je pense que vous connaissez la typologie, il s'agit dans l'Ancien Testament de découvrir ou d'attribuer, si vous voulez, à certains personnages ou même à certaines choses la valeur d'un type. Un type qui annonce ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament alors un antitype. Il y a par exemple des personnages qui sont, on dira, le type de Christ, le type de l'Église, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et alors, évidemment, la typologie peut jusqu'à une certaine mesure être utilisée, mais si on manque de prudence et si on s'embarque dans ce système interprétatif, qu'on trouve partout des types et des antitypes dans le Nouveau Testament, on arrive à un embrouillamini épouvantable, tout devient confus, tout devient, vraiment inconcevable. Tout est imaginatif, ça devient imaginatif. l'inconvénient déjà qui se présente, c'est qu'on fait perdre entièrement réalité aux choses qui sont arrivées, aux événements que nous décrit l'Ancien Testament, et alors on ne voit plus ces événements dans leur réalité. Pourtant, dans leur réalité, ils nous parlent dans leur réalité. Ces choses sont arrivées pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et puis, on n'a pas tellement besoin pour le Seigneur Jésus-Christ, pour l'Église. On n'a pas tellement besoin de trouver tant de types. Il faut voir simplement que dans l'Ancien Testament, le plan de Dieu progressait et s'implantait, préparait en effet les grands événements qui allaient survenir par la venue du Seigneur Jésus-Christ, les préparait. Il y a des rapprochements à faire, mais des types, ce n'est pas la peine d'en établir tant que ça. Il vaut mieux, et ça c'est une prudence, qu'indique dans un assez vieil ouvrage un homme de Dieu qui s'appelle Louis Gossen, qui a écrit un ouvrage très important sur l'inspiration plénière des Écritures. Et Louis Gossen dit d'ailleurs ceci au sujet de la typologie: il faut dans le fond s'en tenir au type que la Sainte Écriture nous indique elle-même. Par exemple, Adam était le type de celui qui allait venir, du second Adam. Bon, alors ça c'est un type indiqué par l'Écriture. Bien, on peut l'utiliser, mais il ne faut pas en imaginer à perte de vue. On tomberait, n'est-ce pas, dans ce travers même que l'apôtre Paul dénonce ici. « Exerce-toi à la piété, nous est-il dit au verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. » La piété qui exige avant toute chose une vie de communion avec Dieu, communion avec le Père et avec le Fils. Vous avez tous été appelés à la communion du Fils, dit Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Vous avez tous été appelés à la communion de son Fils. Et Jean, dans sa première épître, parle, lui, de la communion du Père et du Fils, ce qui est équivalent, bien sûr. Mais, donc, la piété, c'est cela. Tout dans l'Écriture sainte doit diriger, bien sûr, les membres de l'Église, mais essentiellement ceux qui ont une charge, une fonction, les diriger vers la piété. Tout ce qui ne contribue pas à la piété ne sert à rien ou même est dangereux, pernicieux. Et l'apôtre Paul parle ici de l'exercice corporel. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Il ne dit pas que c'est absolument inutile, mais utile à peu de choses. Il s'agit ici non seulement de la gymnastique, une gymnastique que certains aime bien faire, qui est quelquefois conseillé pour développer le corps ou pour remédier à certaines carences musculaires, ou alors le sport. Bon, ce n'est pas seulement ça que l'apôtre Paul a en vue ici, mais il a en vue les exercices soi-disant liés au progrès spirituel. Une sorte de yoga. Ah, si vous connaissez ça, si vous ne le connaissez pas, c'est pas la peine, ne vous souciez pas, vous n'en avez pas besoin. Mais il y a maintenant un danger encore qui nous menace et qui vient de l'Orient, le yoga. Et il y en avait, voyez, il y avait quelque chose d'analogue à ce moment-là dans l'Église primitive. Ces exercices étaient associé à un développement spirituel, comme dans le yoga. On attendait d'eux un développement spirituel, mais bien sûr, l'inconvénient, le grave inconvénient de cela, c'est que ces exercices en vue de développer le spirituel dans l'homme ramènent très vite le sentiment des œuvres que l'on accomplit pour son salut, sentiment de travailler soi-même à son salut, et ces exercices sont donc en opposition avec le principe de la justification par la foi. Et en outre, ils ramènent avec eux le culte de l'homme. Dans le yoga, par exemple, il est dit que dans l'homme dorment des forces insoupçonnées, des possibilités extraordinaires, et qu'on commencera par des exercices physiques, et puis on en arrivera à certains exercices spirituels. Enfin, je ne fais pas la peine de détailler, n'est-ce pas? Et alors, on arrivera là à développer dans l'homme des possibilités extraordinaires. Tout cela, bien sûr, est excessivement mauvais. Et on peut dire, tout cela est diabolique. Il y a une femme qui est maintenant enfant de Dieu, évangélique, et qui est agrégée de lettres. C'est donc une femme très cultivée. Et alors, elle est assez jeune, elle s'était lancée dans le yoga, avant d'être enfant de Dieu, d'être convertie. Elle s'était lancée dans le yoga, elle avait trouvé ça extraordinaire, magnifique, elle avait placé là-dedans un très grand espoir. Et au point qu'elle était devenue elle-même une monitrice, une yogiste. Et alors, ça semblait aller très bien. Elle faisait faire ses exercices à des élèves qu'elle avait, et alors elle semblait avoir jusque-là une certaine démonstration parmi ses élèves qu'il y avait en effet élévation dans les possibilités humaines, intellectuelles même, des possibilités de la pensée. Quand un jour son meilleur élève a piqué une terrible dépression nerveuse. Mais alors, quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Il était absolument dépouillé de toute lucidité. Alors, il a fallu l'introduire dans un établissement de soins, et ça a duré longtemps. Alors, cette pauvre yogiste, cette pauvre femme, n'est-ce pas, a été atterrée elle-même. Comment ? Je croyais que j'allais fortifier, et voici ce qui m'arrive. Ah, ça, alors, c'est inconcevable. Et cela l'a amenée à assister à des réunions évangéliques, où, un peu plus tard, elle s'est convertie. Et je vous dis cela parce que elle a écrit des articles sur le yoga, très renseignée qu'elle est, et elle l'a jugé maintenant en connaissance de la révélation de Dieu, n'est-ce pas, avec un cœur chrétien. Elle a pu juger ce yoga, et c'est extrêmement intéressant ce qu'elle nous a appris là-dessus. La piété aussi comprendra l'adoration dans laquelle pourra apparaître une véritable contemplation du Seigneur Jésus. Ça, c'est tout un problème de contempler, non pas par le moyen d'une vision, non pas un Christ ayant une forme, mais contempler en esprit le Seigneur Jésus-Christ, cela a place dans l'adoration. Il y aura aussi la méditation des Écritures, la participation aux fonctions de l'Église dans le meilleur esprit, avec l'amour au cœur, l'amour de Dieu et des hommes, le don de soi-même, et puis aussi, toujours, la croix. Porter chaque jour sa croix. Tout cela compose la piété dont nous parle ici l'apôtre. Eh bien, chers amis, voilà bien des recommandations qui nous sont faites. Ils sont adressés ici essentiellement à ceux qui exercent une charge dans l'Église. Bien sûr, tout cela convient à tout le monde, à tous les chrétiens, mais bien sûr, a fortiori, il faut que ceux qui exercent un ministère ou une charge dans l'Église aient tout cela. Ils seront des modèles, ils seront les modèles du troupeau. Et pour être les modèles, il faut évidemment qu'ils observent toutes ces recommandations. Nous nous arrêtons là, aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni.